Depuis quelque temps, l'Europe semble avoir oublié qu'elle est la fille de l'épopée et de l'utopie. Elle s'assèche de ne pas parvenir à le rappeler à ses citoyens. Trop lointaine, désincarnée, elle ne suscite souvent plus qu'un ennui désabusé. Et pourtant, son histoire est celle d'un bouillonnement permanent, tant de feux, de morts, tant d'inventions et d'art aussi. La littérature peut-être peut nous rappeler cela, que le récit européen est histoire de muscles, de verve, de ferveur, de colère et de joie. Les mots de la littérature peut-être peuvent replacer au cœur du récit la conviction et l'élan sans lesquels rien ne se fait. Laurent Goudet, ce soir notre invité, à l'occasion de la publication de « Nous, l'Europe, banquet des peuples ». Et comme chaque soir, et particulièrement le lundi soir, et puisque le soleil est revenu sur Paris, nous allons commencer en musique avec Julien Clerc, « Laissons entrer le soleil ».
On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude. Sa voix, si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard, je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Et le silence me répond en secret, Burger, j'ai l'impression de mourir.
Glow, glow, glow.
Chester England, England. Manchester, England, England. Au bout de l'Atlantique, je suis un génie, génie, et je crois en Dieu, et je crois que Dieu en clôt un foie, et clôt, c'est moi,
c'est moi.
Eh bien, c'était le temps béni, mais peut-être aujourd'hui révolu, Laurent Goudet, où on faisait des comédies musicales pour parler de la paix entre les nations, pour parler de l'amour, pour parler des idéaux qui tissaient notre humanité. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini.
Je sais pas, mais j'aime bien justement entendre ça dans une chanson, avec un format qui s'étire, qui n'est pas totalement prédéfini. Et puis quand la chanson accepte effectivement, comme vous le dites, d'inviter des sujets politiques, et puis qu'elle le fait avec ardeur et joie comme c'est là, comme on l'entend, moi je trouve ça très très réjouissant. Puis c'est un beau clin d'œil à mai 68 aussi. Je savais pas que vous alliez commencer par ça, mais ça me va très bien.
Alors, on ne vous présente plus, Laurent Godet, vous êtes à la fois romancier, novelliste, dramaturge. Vous avez commencé, je crois, un peu par hasard à entrer en littérature, et puis aujourd'hui vous êtes extrêmement reconnu, vos livres sont traduits dans de très nombreuses langues. Vous ne vous contentez pas d'écrire des romans qui ont des prix internationaux et aussi les plus grands prix nationaux, mais vous allez aussi, comme une sorte de voyageur d'humanité, dans les quatre coins du monde pour essayer d'ausculter les poches où ça va mal, où la démocratie est malmenée, beaucoup plus que dans notre pays, la France. Et vous en tirez non pas des sujets thématiques pour construire des romans, mais plutôt des colportages d'indignation et de révolte. De quand date votre première révolte et quel en a été le sujet ?
Je pense que c'est 2013, là, en tout cas les révoltes dont vous parlez là, ce serait 2013 et c'était un voyage à Port-au-Prince. Ça a été le premier choc d'abord humain pour moi, ce voyage-là. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, en tout cas un certain nombre de choses de ce voyage. Et puis c'est là où effectivement est née cette espèce de désir d'écrire sur ce que j'avais vu et ressenti, mais de ne pas le faire comme un romancier, effectivement. Et donc j'ai un peu cherché la forme qui conviendrait et ça a donné un peu plus tard un recueil de poèmes où il y a Port-au-Prince, mais il y a d'autres lieux aussi. Oui.
Comment et pourquoi, pour vous, l'écriture doit-elle être polyphonique ?
Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je pense que c'est le... Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'en tout cas, c'est cet ADN-là qui me la rend si chère. C'est-à-dire, je crois vraiment que notamment si on prend le roman, le roman est profondément l'espace de la pluralité. La pluralité des points de vue, la choralité. Je crois que dans le roman plus qu'ailleurs, on éprouve en tant que lecteur qu'il n'y a pas une, mais des vérités, que selon le point de vue qu'on embrasse, le réel devient différent, et que le romancier s'amuse en fait avec tout ça, puisqu'il construit des histoires avec tout ça. Et cette pluralité permanente probablement me va bien, parce que je dois avoir un problème avec le dogme. Mais c'est pareil au théâtre. Je pense qu'on n'écrit pas pour le théâtre si on n'est pas désireux d'être avec chacun de ses personnages. Ça ne veut pas dire qu'on adhère à tout ce que dit le personnage, mais il y a un moment donné où pour l'écrire, on est obligé d'être avec lui, ou en tout cas de le laisser parler. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé cette école-là du théâtre qui m'a, je crois, assez tôt appris cette chose-là.
En tout cas, quand on rentre dans la matière de votre écriture, que ça soit du théâtre, des nouvelles, des essais ou du roman, Laurent Godet, on sait qu'on va entrer dans un espace où il n'y aura pas de jugement moral. Et on sait aussi que nous, chacun d'entre nous, lectrice ou lecteur, on va avoir sa place. On va être déstabilisé, car vous ne nous offrez pas une monothématique, on n'est pas sur les rails d'une histoire. Non, il va y avoir plusieurs points de vue qui vont être en contradiction, et c'est à nous de nous faire notre propre jugement sur ce que vous nous racontez. Pourquoi ?
Alors, mais parce que je pense que c'est ce qui est beau dans l'espace de la fiction, c'est que l'auteur propose une histoire dans laquelle le lecteur entre, et on sait à quel point le lecteur fait la moitié du chemin quasiment. Donc effectivement, saturer le roman avec l'idéologie de l'auteur qui viendrait dire au lecteur ce qu'il doit penser, ce qu'il doit ressentir, me semble être, non, c'est pas pertinent par rapport à l'objet du roman. Il y a quand même une distinction, c'est que moi, ce qui me passionne, c'est que la construction d'un roman, c'est aussi la construction d'une architecture. Et ma voix à moi, elle est certainement plus dans l'architecture que derrière tel ou tel personnage. Alors, cette architecture, décider comment ça va se terminer, décider quel personnage va être mis en échec et quel autre va aller au bout d'un parcours, ça, c'est mon regard à moi sur les choses. Et il y a là-dedans, certainement, une pensée, un point de vue que le lecteur ressent aussi. Mais il le ressent dans une sorte de deuxième temps par rapport à un mouvement global du récit et pas effectivement à la page 34 parce que j'assène telle ou telle vérité.
Vos livres sont tous empreints d'un feu qui veut restituer la réalité de ce que vous avez vraiment, vous, ausculté. C'est pour cela que vous voyagez. On a l'impression de beaucoup de précision, on a l'impression d'être dans un regard presque cinématographique et très documenté des réalités que vous allez nous restituer. Je crois que ce sont les mots qui vous aimantent pour voyager, et c'est pour trouver les mots que vous voyagez. Je voudrais vous faire écouter la voix de Blaise Cendrars, que nous aimons tous, mais je crois que vous aussi vous l'aimez, notamment prose du Transsibérien. Il va parler du langage. C'est une archivina du 30 novembre 1950. C'est au micro de Michel Manol.
Le langage est une chose qui m'a séduit. Et le langage est une chose qui m'a perversé. Le langage est une chose qui m'a formé. Le langage est une chose qui m'a déformé. Et voilà pourquoi je suis poète, probablement. C'est que je suis très sensible au langage. Correct ou incorrect, je m'en bats l'œil pourvu que ça soit bien vivant. C'est pourquoi ce grand dictionnaire de l'administration des douanes me passionne, parce que, par exemple, pour en venir au mot ruban, eh bien, je découvre avec stupeur toutes les significations que le mot ruban peut représenter, et surtout son évolution ultra-moderne.
Le mot ruban, dit Blaise Cendrars. Vous aussi, il y a des mots que vous affectionnez, qu'on va retrouver dans tous vos romans, dans tous vos essais, dans toutes vos pièces de théâtre.
Oui, je pense qu'on a tous nos points de fixation, nos motifs autour desquels on tourne. J'aime bien entendre Cendrars dire que c'est correct ou pas correct, peu importe. Je crois à ça. Je crois que et je parle en tant que lecteur, se retrouver face à la langue de quelqu'un, c'est aussi entendre l'accident avec lequel cette personne habite la langue, parce qu'en fait, il y a rarement de manière vraiment fluide et classique de l'habiter. C'est toujours une syntaxe particulière. C'est de la même manière qu'on a un grain de voix, je pense que les écrivains ont un grain de plume, et que c'est toujours une manière d'habiter en faisant peut-être en esquintant un petit peu la syntaxe des grammaires ou correcte. C'est ça qu'on retient au fond. C'est cette manière de poser la virgule, c'est cette manière de faire des phrases très courtes ou au contraire très longues, de s'y perdre. Je crois que le correct n'a effectivement pas grand-chose à voir avec ça. C'est une habitation profonde de notre langue, mais qui marque une étrangeté. Oui.
Quand vous partez, manifestement, vous restez longtemps dans les pays où vous allez vous installer, non ?
Pas du tout. Plutôt le contraire, à dire vrai.
Mais alors, qu'allez-vous glaner ?
Je vais essayer de me mettre en état de ressentir des choses. J'ai beaucoup de prudence vis-à-vis du mot connaître quand on parle des voyages. Donc je cherche jamais à connaître un lieu. Je pense que je sais pas combien de temps il faut passer dans un endroit du monde pour le connaître. L'Italie est probablement l'endroit que je fréquente le plus, et même après 25
ans.
Ça
vous a apporté bonheur.
Oui, c'est vrai. Mais même aujourd'hui, je sais pas si je connais l'Italie. C'est absurde de dire ça comme ça. Donc, finalement, ma manière à moi de voyager, c'est plutôt de faire des voyages assez courts, d'essayer de rentrer en... Ça va paraître peut-être un peu bizarre, mais de rentrer en vibration avec quelque chose du lieu. En tout cas, que ce lieu me modifie ou me touche. Après, est-ce que ce que je vais en dire sera une vérité de ce lieu-là? Je crois pas, mais il faut ressentir quelque chose, il faut se mettre en... Oui, dans une forme d'ouverture vis-à-vis de ce qu'on va croiser.
Et c'est ce que vous allez observer qui va donner le style de l'écriture. Je repense là à Haïti et à votre roman qui est extrêmement visuel, où je repense à d'autres textes qui sont plus immobiles. On a l'impression que votre style va dépendre de ce que vous avez observé. Comme si Chaque situation mérite un régime d'écriture, un style d'écriture et une vitesse ou une lenteur et presque une immobilité d'écriture.
Mais c'est sûrement plus par rapport à ce que j'ai ressenti personnellement dans ces moments-là que par rapport à la réalité du lieu et à la manière dont on y parle. Ou c'est plus cette boussole-là que je suis. C'est qu'est-ce que j'y ai ressenti ? Est-ce que ce serait plus juste d'en parler avec des phrases longues ou avec une langue plus musclée, nerveuse, c'est plus par rapport à ça, oui.
Que faisiez-vous dans le Kurdistan irakien 4 mois avant l'avancée de Daesh, Laurent Godet ?
J'étais là-bas à l'invitation de la chaîne de télévision Arte qui m'avait demandé d'aller faire un sujet sur les réfugiés syriens qui étaient accueillis de manière très belle, il faut le dire, et franchement, j'étais très admiratif de ça par leurs frères kurdes d'Irak. Et donc j'ai passé quelques temps dans le camp de Kavergosk, effectivement, juste avant que Mossoul ne tombe. Oui.
Qu'en avez-vous retenu ?
Une grande mélancolie, beaucoup d'admiration pour les gens qui tiennent debout malgré toutes les raisons qui auraient de s'effondrer. Et puis des visages que j'ai pas oubliés, des noms que je n'ai pas oubliés. J'ai eu beaucoup de mal à... C'est des endroits du monde dont il est difficile de revenir. Autant j'ai pas de difficulté à y aller parce que c'est porté par le désir de découvrir, d'aller revenir de ces lieux-là est plus compliqué. On met du temps à se retrouver dans un supermarché en France au rayon yaourt. C'est compliqué quand on a croisé des gens comme ça, discuté un peu avec eux. Pareil pour Haïti d'ailleurs. Mais ces déplacements sont à la fois totalement vertigineux et en même temps je pense qu'ils sont assez salutaires. C'est-à-dire que c'est le même monde que celui que nous habitons et j'ai envie de moi à mon niveau de ne pas l'oublier, c'est-à-dire que c'est pas si loin, c'est assez facile d'aller au Kurdistan. On passe par Vienne, en 4 heures d'avion, on y est. Et en même temps, en tout cas à cette époque-là, j'y suis pas retourné depuis, mais on est dans un autre monde, dans un autre temps, dans une autre géographie, dans d'autres enjeux. Ces bascules-là sont assez inconfortables humainement, mais extrêmement riches d'un point de vue des sensations et d'un point de vue de l'écriture aussi. Ça me donne toujours très envie d'écrire. La difficulté que j'ai ressentie dans tous ces voyages-là, c'était mon impossibilité d'écrire des romans par rapport à ça. Ça reviendra peut-être après, mais je me suis dit que c'était la difficulté, elle était de construire une fiction vis-à-vis de ces moments-là. J'avais pas envie, je me sentais pas autorisé à le faire. Et peut-être que les textes poétiques, en vers libre, assez narratifs, mais qui restent peut-être plus du côté d'une langue un peu plus poétique, avait cet avantage pour moi de pouvoir parler de ce que j'avais traversé, mais sans échafauder quoi que ce soit de l'ordre de personnages, de fables, de rebondissements, d'être juste dans l'essai de dire vraiment ce que j'ai vu et de donner la voix à ceux que j'ai croisés.
Dans votre avant-dernier texte, intitulé « Écoutez nos défaites », vous avez fragmenté les récits et vous avez parlé de différentes thématiques qui sont ô combien au cœur de notre actualité, que ça soit l'État islamique, la prise de Palmyre, le 11 septembre et le spectre des attentats en France. Et j'ai senti, à travers l'écriture de ce texte, que il y avait justement cette attirance pour des gens qui, quelquefois, hélas, vont basculer du côté noir de leur humanité, c'est-à-dire du côté du terrorisme, la possibilité de ce point de bascule. On peut aller n'importe où très vite, mais on peut aussi ressentir une intensité à transformer son être et à devenir autre chose que ce qu'on vous a éduqué à être.
Oui, et puis souvent c'est pas vous qui décidez d'ailleurs, ou en tout cas ça n'est pas que vous, c'est le hasard de l'époque qui fait que tout d'un coup Daesh surgit et prend Mossoul et ça va changer la vie de dizaines de milliers de gens autour qui vont être du coup face à des choix qu'ils n'auraient jamais eu à ressentir ou à entrevoir 6 mois plus tôt. Donc l'histoire avec un grand H s'introduit dans les vies et décide aussi pour certains. Moi, ce qui me passionnait dans ce livre dont vous parlez, c'est la question aussi des hommes ou des femmes d'action, être dans l'action et donner la voix, essayer de plonger avec eux, parce que ces gens-là ne sont pas forcément des imbéciles, loin de là, mais ils ont fait le choix de l'action. Aller chercher ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent en termes de, à la fois d'expérience et puis aussi de bilan de ce qu'ils font. Comment est-ce qu'on se juge soi-même quand on a fait un certain nombre de missions, comme c'est le cas de mon personnage principal. Ça m'intéressait beaucoup, mais
Mais son horizon, c'est la mort.
Alors, dans un premier temps, c'est le devoir et c'est l'obéissance. Mais il donne la mort, effectivement. Il tue. Il est tueur de la République. Il y en a aujourd'hui en France qui font ce métier-là. Les présidents successifs que nous élisons en utilisent pour éliminer les ennemis de la France. Je trouve que c'est un personnage en soi, c'est un personnage romanesque fabuleux. Parce que justement, pas simple à appréhender, difficile à juger. Moi, et puis qui je suis moi pour juger un homme comme ça? Je suis en même temps bien content, certainement, que tel ou tel horrible bonhomme qui menaçait les terrasses des cafés en France soit éliminé. Donc il y a cette espèce de dualité entre l'action qui est brutale, qui va être sanglante, et puis en même temps la pensée qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une guerre? Est-ce qu'on peut la gagner? Ou est-ce que c'est une succession de missions? Quel sens ça a? Quand est-ce que ça se termine? Enfin, tout ça était au cœur du livre, effectivement, oui.
Alors, vous, manifestement, vous ressourcez aux tragédies antiques. Vous connaissez très bien les guerres depuis l'aube de l'humanité. Vous y introduisez des personnages historiques. Ça peut être Hannibal ou ça peut être d'autres à l'intérieur des chaos de notre post-modernité. Je vous propose d'écouter Marguerite Duras qui va parler du théâtre tragique et de son admiration pour Racine.
On joue plein vivable au théâtre. La tragédie, je dis. La tragédie, c'est l'invivable. Si je vais jusqu'au bout de ma pensée, je crois qu'il n'y a de théâtre que tragique. Enfin, je l'entends de façon très large. Je crois que Molière, c'est tragique. Complètement, voyez. Et que tout ce qu'on essaye de faire maintenant au théâtre sera rejeté. Tous les siècles, il y a des tentatives de meubler le théâtre, d'accessoires comme ça, de pièces, c'est pas non classiques, mais de pièces non adéquates. On raconte autre chose que la passion. Et ça ne marche jamais. Je crois que ce qu'on peut jouer encore de plus jeune au théâtre, de plus frais, d'inaltérablement frais, c'est Racine. J'en suis complètement persuadée.
On vient d'entendre Marguerite Duras. Je crois savoir que vous aimez beaucoup à la fois son théâtre, mais aussi ses livres, Laurent Godet. Et quand on voit votre œuvre théâtrale, on ne peut que se dire que vous avez été dans le registre de la tragédie ancienne, avec pas mal de textes de théâtre. D'ailleurs, un des premiers qui avait été monté à Théâtre Ouvert en 97, Onisos le Furieux. Et puis, il y en avait eu bien d'autres. Hein. Médée Kali, qui est un texte sublime que j'ai relu ce week-end avant notre entretien, comme si, effectivement, l'essence tragique du théâtre abolissait les distances temporelles.
Oui, mais je crois à ça. Je crois que le génie de la tragédie, c'est d'avoir réussi à poser une forme littéraire sur l'arc de la vie. C'est-à-dire que au cœur de toute tragédie, il y a ce moment de bascule entre le bonheur et le malheur, qui souvent dans la tragédie, pour des questions dramaturgiques, et se passe en un temps très court, très spectaculaire, mais qui au fond n'est jamais que la représentation de ce que nous allons tous vivre, ce moment où ce que nous avons construit patiemment, avec ardeur, se délite, et où il faut faire l'apprentissage et l'expérience de la fracture et puis à terme de la fin. Je pense que la force de la tragédie vient du fait qu'elle pose des mots sur vraiment le notre chemin à tous, et que en ce sens-là elle est effectivement à la fois indépassable et totalement intemporelle, ce qui fait que effectivement face à Médée ou face à Racine nous vibrons encore, alors qu'on pourrait quand même très bien se dire au fond ça a été écrit il y a des siècles et ça n'a plus tellement grand-chose à voir avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et pourtant non, pourtant il y a quelque chose qui perdure et qui me fait penser que nous sommes encore profondément et nous le serons toujours, et c'est joyeux d'ailleurs, antiques.
Le monde contemporain où nous vivons, là, juste à l'instant, présent, est-il d'essence tragique selon vous ?
Oui, au sens où chacun d'entre nous va avoir un chemin, alors je suis désolé, oui, tragique, oui, absolument. Et puis par ailleurs, il y a des enjeux aujourd'hui qui portent éventuellement ça, mais je pense que toute époque a été profondément agitée. En me replongeant un petit peu en arrière pour l'écriture de ce livre, Nous l'Europe, c'est probablement ce qui m'a le plus frappé, c'est que quel tumulte, quelle génération a vécu tranquillement? Il n'y en a pas eu beaucoup, en fait. Et c'est une sorte de convulsion permanente et parfois encore bien plus tourmentée, spectaculaire que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, ce n'est pas pour comparer, mais je pense effectivement que ça nous accompagne en permanence, oui.
À quoi servent les mots et quelle est votre définition de l'écrivain, Laurent Godet, aujourd'hui?
Ben, j'aime bien l'idée que j'emprunte à Hannah Arendt que les mots justes prononcés au bon moment sont de l'action. Si je croyais pas à ça, je pense que j'arrêterais d'écrire. C'est-à-dire que les mots peuvent avoir cette force-là s'ils sont trouvés de manière pertinente et qu'ils y rentrent en écho avec le temps. Alors ils ont une efficacité, oui.
Vous considérez-vous comme un écrivain engagé?
J'aime pas tellement ce mot parce que je le réserve aux hommes d'action, les écrivains d'action, ceux qui ont à un moment donné aussi tenu un fusil ou plongé dans la tourmente. On a entendu Marguerite Duras, elle a su ce que c'était que d'être engagée. Moi, je suis plus prudent vis-à-vis de ça parce que même dans les coins du monde un peu durs où j'y vais comme un homme qui regarde. Donc, je préfère un écrivain de conviction qu'un écrivain engagé.
Vous avez écrit Eldorado après avoir été à Lampedusa.
Non, j'ai pas été à Lampedusa. Il y a certains livres que j'ai écrits de ma table.
Sans jamais
faire les voyages.
Devoir y aller.
Non, non.
Pas besoin.
Non.
Tout dans la tête.
À l'époque, j'avais pas besoin. Non. Oui. Il y a plusieurs romans qui ont été écrits comme ça. Il y a aussi Ouragan. J'ai jamais mis les pieds à la Nouvelle-Orléans. Et pourtant, j'avais envie de le faire.
Les images de la télévision et d'Internet qui vous ont suffi, alors?
Il y a
pour
ça.
Pour trouver les mots.
Il y a ça. Il y a beaucoup de recherches photographiques, utiliser le travail des journalistes aussi, les témoignages, on trouve quand même très vite beaucoup de choses.
Il faut les agencer, ces choses. Il faut entraîner dans votre matière d'écriture pour que nous puissions être convaincus. Le 17 juin dernier, vous avez publié le 17 juin de il y a 2 ans, pardon, vous avez publié dans un journal qui s'appelle Le 1, un article qui a fait beaucoup de bruit, qui s'intitulait « Sigil la France ». Là, vous êtes allé à Calais.
Oui.
Et vous y avez eu besoin d'y aller. Calais, c'est pas très loin. Et pourtant, voilà ce que vous écrivez. Alors oui, je le dis, en contemplant ces pauvres baraques, en contemplant ces hommes et ces femmes qui sortent de leur tente le dos voûté pour constater qu'il pleut encore et qu'ils sont prisonniers du vent, sigil la France. Sigil la France à Calais, devant l'église construite par des Érythréens ou dans la boue glacée d'un jour de pluie à Grande-Synthe. Sigil la France le long des nouvelles barrières qui protègent la nationale 216 ou l'accès au tunnel sous la Manche et qui donne à la ville des airs de forteresse, imprimant sur les habitants une image d'eux-mêmes, de leur ville, de leur région qui est celle de la dureté. Sigil la France qui ne fait montre d'aucune solidarité envers ces villes ou ces communes sur lesquelles pèse un poids considérable. Là, il a fallu y aller et là, vous avez trouvé les mots.
Oui, j'ai été stupéfait parce que j'ai vu. Je revenais notamment du Kurdistan quelques mois avant et c'était presque les mêmes hommes et femmes que je voyais, puisque c'est le camp de Grande-Synthe, à côté de Dunkerque, qui était peuplé à 80% de Kurdes irakiens. Donc ils avaient fait le même chemin que moi en revenant en France. Et le camp de Kavergosk au Kurdistan était infiniment mieux tenu, mieux organisé que ce que j'ai vu ou à Calais ou à Grande-Synthe. Parce que c'était un camp organisé par l'ONU, donc il y avait ce que sait très bien faire l'ONU, c'est-à-dire des tentes, des distributions journalières de nourriture, des cours pour les enfants, etc., etc. Rien de tout ça n'existait à Calais ou à Grande-Synthe, parce qu'on n'avait pas envie que ça existe. Parce que la France n'a pas donné l'autorisation à l'ONU de venir en France parce que ça aurait été un désaveu de sa souveraineté, et qu'à la place de ça, elle n'a rien fait, avec le secret désir probablement de donner peu envie à d'autres de venir. En tout cas, soi-disant, c'est une stratégie qui ne marche jamais, mais à laquelle chaque gouvernement croit systématiquement depuis Sangatte, qui date quand même de quelques temps. Donc oui, c'était inimaginable. J'ai encore en tête des scènes, et pas que moi, parce qu'il y avait des photoreporters, il y a beaucoup de gens qui sont allés à Grande-Synthe. J'ai discuté avec certains d'entre eux. Tout le monde était sidéré parce que de voir ça en Europe. Et j'emprunte une phrase à Aimé Césaire que j'aime beaucoup dans le discours sur le colonialisme. Alors je la connais malheureusement pas par cœur, mais il dit à un moment donné qu'une nation qui ruse avec ses valeurs se condamne à pourrir. Je crois que c'est exactement ce qui se passe avec la question des migrants et ce qui s'est passé à Calais. C'est-à-dire que l'Europe, là, en ce moment, encore, aujourd'hui, ruse avec ses valeurs. Mais elle le paiera. Elle le paiera peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, mais je suis persuadé qu'elle le paiera. Parce que là, elle est en train de se mentir à elle-même.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Laurent Godet pour notre plus grand bonheur, Lhassa.
He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y las primaveras mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah, ah. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ay. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego.
شيء إلا الضوء لم أوقف حصاني إلا لأقطف وردة حمراء من بستان كنعانية أغوت حصاني وتحصنت في الضوء.
Je n'ai arrêté mon cheval que pour cueillir une rose rouge dans le jardin d'une cananéenne qui a séduit mon cheval et s'est retranché dans la lumière.
لا تدخل ولا تخرج فلم أدخل ولم أخرج وقالت هل تراني فهمست ينقصني لأعرف فارق بين المسافر والطريق وفارق بين المغني والأغاني.
N'entre pas, ne sors pas. Je ne suis pas entré, je ne suis pas sorti. Elle a dit, me vois-tu ? J'ai murmuré, Il me manque, pour le savoir, l'écart entre le voyageur et le chemin, le chanteur et les chants.
جلست أريحة مثل حرف من حروف الأبجدية في اسمها وكبوت في اسمي عند مفترق المعاني.
Telle une lettre de l'alphabet, Jéricho s'est assise dans son nom et j'ai trébuché dans le mien à la croisée des sens.
أنا ما أكون غدا ولم أوقف حصاني إلا لأقطف وردة حمراء.
Je suis ce que je serai demain. Je n'ai arrêté mon cheval que pour cueillir une rose rouge dans le jardin d'une cananéenne qui a séduit mon cheval. Et je suis reparti en quête de mon lieu plus haut et plus loin. Encore plus haut, encore plus loin que mon temps.
Nous venons d'entendre Lhassa et puis cet enregistrement sonore, c'était au Théâtre de l'Odéon, le dernier concert donné par Mahmoud Darwish, qui vient de réciter un de ses poèmes qui a été traduit par Didier Sand. C'était donc le 7 octobre 2017. Mahmoud Darwish apparaît dans votre avant-dernier livre, Laurent Godet. Il apparaît, évidemment c'est le narrateur, on ne sait pas si beaucoup de lambeaux de l'existence du narrateur ressemble à votre vie vécue, Laurent Godet, mais en tout cas, quand il apparaît comme une source de paix, il apparaît comme un modèle à la fois d'écriture et d'engagement. Lui qui a été cet immense poète, qui ne s'est jamais senti engagé politiquement, mais qui a toujours défendu son peuple, le peuple palestinien. Que représente pour vous, Darwish, vous qui êtes aussi poète ?
La communion entre une voix et un peuple, avant tout, je crois. Et c'est ce qui est très fort et très beau avec lui, c'est que sa poésie, aussi difficile et exigeante soit-elle, on l'a entendu, c'est pas facile, le Darwish. Elle est connue, portée, apprise par le peuple palestinien. Et je trouve que cette chose-là est immensément belle. Dans nos contrées à nous, je pense qu'il y a eu un divorce depuis quelque temps entre la poésie et le peuple, probablement après-guerre. Aragon est encore un poète qu'on connaît par cœur, Éluard, les chansons françaises aussi ont aidé encore un petit peu ce temps-là. Et puis après, les routes se séparent. Alors, il y a des très belles choses qui se font quand même. Mais c'est vrai que moi, ce que je ressens avec Darwish, c'est avec stupéfaction, cette force-là d'une voix qui d'un coup devient la voix d'un peuple et qui se nourrit réciproquement de ce peuple-là. Moi, j'y étais, là. Ça m'émeut beaucoup parce que, alors pas à l'Odéon, mais à Toulouse, où ils avaient fait aussi une lecture commune avec Didier Sandre, qui est en plus une voix que j'admire énormément. Donc c'est vrai que c'est des beaux souvenirs aussi, oui.
Dans cette émission, nous demandons à quelqu'un qui connaît bien l'itinéraire de l'invité de s'exprimer à son sujet. Comment oublier que Stanislas Nordet, qui en ce moment même dirige le Théâtre National de Strasbourg à Strasbourg, a monté deux pièces de vous. Il vous a choisi, il ne vous lâche pas, c'est écrit et Sodome la Douce, écoutez ce qu'il dit de vous.
Laurent Godet, c'est une de mes plus belles rencontres théâtrales. J'ai travaillé plusieurs fois sur ses textes. J'ai monté Cris, qui est un roman à l'origine, mais qui était écrit dans une forme extrêmement dialoguée, théâtrale. Et puis Sodome ma douce, que j'ai monté avec Valérie Lang. J'ai eu d'autres projets sur ses textes qui n'ont pas abouti. C'est quelqu'un qui a une langue qui est à la fois extrêmement poétique et politique. C'est quelqu'un qui va creuser dans le corps des personnages. C'est un théâtre fait pour les acteurs. Il y a à la fois le sens de la narration que le romancier possède, mais il y a aussi un traitement très très particulier sur la langue théâtrale qui n'est pas la même que sa langue de romancier, on va dire. Donc c'est quelqu'un d'absolument singulier pour moi, qui est monté très souvent, mais qui pourrait l'être beaucoup plus. Je crois que peut-être, mais ça c'est tout le problème des auteurs qui écrivent du théâtre aujourd'hui, qu'on n'a pas assez d'auteurs contemporains sur nos grandes scènes, en tout cas à l'Odéon, à la Colline. Bon, il y a du boulot, mais il pourrait y avoir plus encore, à la Comédie Française notamment. Donc c'est quelqu'un pour moi d'extrêmement singulier, en tout cas, qui creuse un chemin qui n'appartient qu'à lui. Laurent, j'ai une question pour toi. cette forme très très particulière qui était celle de cri, qui était à mi-chemin entre mille genres littéraires. Est-ce que c'est une question que tu te reposes, que tu creuses à nouveau ou que tu vas creuser?
Laurent Godet, répondez à Stanislas Nordet, si vous le voulez bien.
Je le veux très volontiers, je suis très ému de ce qu'il dit. Pas dans la forme que j'ai expérimenté avec Cri, ça ne m'est pas revenu comme ça, mais au fond, je pense que la choralité qu'il y a dans Cri n'a pas cessé d'accompagner mon travail, je l'ai décliné dans beaucoup d'autres romans. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très formel dans Cri, avec le nom du personnage et ensuite ce qu'il pensait ou ce qu'il disait, que je n'ai pas réexploré, mais pourquoi pas. C'est drôle parce qu'à l'époque, je détestais qu'on dise que Cri soit une espèce de pièce de théâtre. C'était mon premier roman et je voulais qu'il en soit ainsi. Et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, je me dis qu'effectivement, c'était une forme extrêmement hybride et que c'est très bien comme ça d'ailleurs. Donc j'y reviendrai peut-être, oui.
Mais vous avez de la suite dans les idées, Laurent Godet.
C'est une de mes seules qualités, je suis têtu.
Bah, écoutez, en tout cas dans votre écriture, oui, parce que quand on relit cet article qui avait fait date dans le 1 Sigil la France, on voit que peut-être il y a déjà en germe ce texte qui va être donné au Festival d'Avignon et qu'on peut lire pour lui-même et qui est à mon avis un texte magnifique qui devrait être lu partout, dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. À la fin de Sigil la France, donc dans le 1, vous écrivez ceci. Sigil l'Europe qui se disloque, montre un triste visage. L'Europe n'est qu'un rêve inutile si à chaque difficulté, il se cache derrière sa souveraineté. Que voulons-nous? La prospérité seulement elle? Je ne serai plus là si l'Europe ne trouve pas face à la crise des migrants une solution humaniste et éclairée. À l'heure actuelle, le visage qu'elle montre me fait honte. Il est laid comme les ratonnades à Stockholm, scandaleux comme le vote danois sur la confiscation des biens des migrants. La Hongrie renoue avec le pire du populisme, la France est peureuse et l'Europe tout entière prend des airs de fossoyeur. Et puis voilà, 2 ans après, vous publiez « Nous, l'Europe », qui est à la fois un récit historique, poétique, politique, un cri d'espoir, mais aussi un cri d'alarme sur l'état de notre Europe.
Oui, parce que force est de constater quand même que c'est un sujet, c'est une réalité qui fait peu vibrer les citoyens européens et que moi ça me rend à la fois perplexe, très anxieux et puis assez triste parce que si on dézoome un tout petit peu et si on reprend un peu de recul sur cette aventure, je trouve que c'est quand même la plus belle aventure politique de ce siècle et du précédent. C'est inouï ce que on a posé là, enfin ce que nos prédécesseurs ont posé, et le fait qu'on le porte si peu, avec tant de distanciation, de négligence d'une certaine manière, moi me navre. Alors après, il y a des colères, j'en ai, et vous les avez fait entendre en lisant ces extraits-là, il y en a sur plein de sujets, mais je crois que ça ne doit pas mettre en cause l'aventure profonde qui est encore à poursuivre et qui a sa part d'utopie, alors qu'on a oublié, mais qui existe, qui était là à l'origine.
Mais on voit bien quand même que les élections européennes ont mobilisé les opinions publiques un peu partout en Europe, même si les résultats ne vous ont pas paru toujours convaincants. On peut dire que l'Europe reste un peu désirable, peut-être pas assez désirable. On peut dire qu'il y a une montée des populismes dans certains pays, y compris des pays qui étaient des exemples et des exemples tutélaires de démocratie et qui maintenant sombrent dans des déchirures ethniques ou religieuses, mais il y a quand même de l'espoir.
Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on peut aussi dire, et peut-être qu'il faut le dire davantage que ce qu'on fait, que l'immense majorité des Européens qui ont voté pour des partis, aussi différents soient-ils, qui sont pour la construction européenne. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors après, on va s'empoigner sur on n'est pas d'accord entre partis, mais il y a une espèce de mouvement qui est pour la construction européenne, effectivement. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce qui est attristant, c'est l'assèchement de la passion et du rêve qui devrait y avoir là-dedans. C'est vrai que la plupart du temps, même quand on est plutôt pour, c'est par réalisme. Et ça, je trouve qu'il manque une espèce.
Alors que vous en faites la grande épopée historique du XXe siècle et du XXIe siècle.
Bah oui, il me semble. Oui.
Et le seul projet à la fois utopique et réel.
Absolument. Ouais, ou d'autres sur la planète. Est-ce que 27 pays ont essayé de se mettre autour d'une table pour lier leur destin?
C'est-à-dire que vous saturez d'imagination et de désir ce mot qui est un peu vide et qui ne provoque plus rien qu'un peu de commisération et d'ennui, qui est ce mot d'Europe.
Oui, mais parce que je suis
persuadé... Le réanimer, anima, de l'âme.
Mais parce que je suis persuadé que si on nous l'enlève, demain on sera beaucoup à pleurer. Donc plutôt que de pleurer demain, essayons de le célébrer aujourd'hui. Alors pas béatement et sans regard critique, mais oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais envie de choisir la forme de la poésie, parce que je pense que plus que la forme de l'essai ou du roman, la poésie, c'est très bien à la fois célébrer et être dans l'imprécation, par exemple. C'est-à-dire que la colère et la joie sont des choses qui vont bien à la poésie, à son lyrisme, à des espèces d'envolées. Donc je voulais être de ce côté-là, effectivement.
Alors, plusieurs remarques sur la nature de ce texte, qui, encore une fois, est très enthousiasmant. D'abord parce qu'il est beau, qu'il nous entraîne, qu'on a l'envie de le dire tout haut et de le transmettre et de le donner, et que quelqu'un d'autre qui l'a entendu le donne à quelqu'un d'autre, etc., etc. Vous faites remarquer, à deux ou trois reprises dans votre texte, Laurent Godet, qu'on ne fait pas assez de place, et je trouve que vous avez entièrement raison, à la jeunesse, à l'extrême jeunesse, dans notre Europe un peu fatiguée, perclue de rhumatisme.
L'Europe est vieille, c'est une réalité démographique. Et simplement, les révolutions de demain ne naîtront pas des vieux. Pardon de m'exprimer comme ça, mais en regardant dans l'histoire, j'ai jamais trouvé de révolution de vieux. C'est toujours la jeunesse qui porte le mouvement et la révolution. Et donc, il faut effectivement que l'Europe s'ouvre à ces voies-là. Les résultats des élections, avec cette espèce de vote de la jeunesse, par exemple, sur les thématiques de l'écologie, moi, me réjouissent.
Je voudrais vous faire écouter la réaction d'un très grand intellectuel, aujourd'hui un peu méconnu, qui a disparu récemment, qui a pensé l'Europe, qui a écrit sur l'Europe avant tout le monde. Écoutez ce qu'il disait de l'Europe. Il s'appelait Paul Virilio, je suis sûre que vous avez déjà lu ses livres. Il va parler d'une redéfinition des frontières de l'Europe, c'était en 1999, écoutez-le.
Où s'arrête l'Europe? C'est quand même un comble. Quand on dit que on ne sait pas où on va l'arrêter, qu'on élargit sans arrêt, on se moque de nous, encore une fois. On nous parle beaucoup d'un élargissement infini, au-delà de l'Oural d'ailleurs. On se demande jusqu'à Vladivostok, peut-être. Mais par contre, on oublie le Sud. On oublie que l'Europe, c'est Mare Nostrum. C'est-à-dire que quelque part, l'Europe, elle est liée au Maghreb. Elle est liée au bassin méditerranéen. Elle l'a été et elle l'est encore. Or, on n'en parle plus. On ne parle que d'une dérive vers l'Est, comme si c'était possible. On ne peut pas mettre n'importe où la frontière à l'Est. Je ne dirais pas où la mettre, parce que c'est pas mon travail, mais je dirais qu'il serait temps de le définir, parce que bientôt l'Europe ne sera plus crédible.
Voilà, ça c'était en 1999, nous sommes en 2019, et effectivement cette idée très contestée d'un élargissement de l'Europe uniquement vers l'Est, là Virilio plaide pour un élargissement pro-méditerranéen, ça vous plaît, non ?
Oui et non. C'est-à-dire que sur le fond, oui. Après, il faut être un peu réaliste aussi. Et je ne crois pas du tout à la possibilité aujourd'hui d'élargir vers le Sud. Je pense que il y a une imprécation à trouver entre ces deux réalités. Moi, par exemple, je me sens à la fois européen, je pense que ça me définit, et d'une manière étrange, je me sens méditerranéen. Ces deux choses me constituent. La Méditerranée est une entité qui n'est pas superposable à la construction européenne. Elle est plus vaste, elle est plus large, elle va vers l'Orient, vers Beyrouth, et aussi vers Tanger et Tunis. On peut aussi, on n'est pas obligé d'annexer tout dans une construction européenne vaste, on peut réfléchir notre identité avec cette dualité. Effectivement, il y a beaucoup de Français qui se sentent méditerranéens. Où est-ce que ça les emmène? Ça les emmène probablement vers l'autre rive, vers des liens profonds sur les autres rives, d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs, et ça, il faut le construire, le creuser. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit pertinent de tout vouloir intégrer à la construction européenne. Essayons d'abord de la fortifier avant d'envisager ce genre de choses. De ce point de vue-là, je trouve que le rapport à l'Est est très différent. Parce que si on a élargi à l'Est, ça aussi, il faut peut-être davantage le dire. Quelle était l'autre option? C'était de dire aux Allemands de l'Est, non, on est déjà trop, merci, ça va aller. Et aux Polonais, pareil. Je veux dire, au moment où on l'a fait, on ne pouvait pas faire autrement. Moi, j'en suis convaincu, ça n'avait pas de sens. C'était retrouver des gens dont nous avions été séparés par la violence et l'autoritarisme. Et donc, c'est ça qui avait du sens. L'humanité, l'humanisme, il était de ce côté-là. Donc, élargir, c'était pas courir à toute force vers plus, toujours plus. C'était simplement retrouver des familles qui s'étaient déchirées, des gens qui avaient été nos voisins et qui ne l'étaient plus. L'élargissement vers l'Est, je vois vraiment pas comment on aurait pu faire autrement, et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Après, l'organisation d'une construction européenne forte avec la Méditerranée, c'est un chantier absolument passionnant, mais je pense qu'il se fera dans des entités différentes.
Allez, dépêchez-vous, grand banquet, elle est là notre mission. Nous pouvons inventer mieux que l'administration castratrice. Abat les décrets normatifs, l'uniformisation. Nous méritons de plus grands rêves. Allez, approchez. Merci beaucoup Laurent Godet. Nous, l'Europe, banquet des peuples. Ça sera aussi une pièce de théâtre qui va commencer dès le début du Festival d'Avignon. Nous avons hâte de l'entendre. Pour merci le moment, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Et puis, on va se quitter avec une jeune femme qui s'appelle Rosalia.
Te conjuro, te dejo prendado. Encima de la techo olvido los pecados. Y que todos los santos tienen su pasado. Yo te bendigo si te tengo al lado. Su nombre en el coro ya no está clavado. Manos en el aire si te lo han rasgado. Que yo la vi más alto empuñado. Hola, yo aquí, ¿qué? Esto está encendido, na, 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 na. Esto está encendido, na, 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 na. Esto está encendido, na, 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 na. Esto está encendido, na, 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 na.
Merci à Gilles Gaillard qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Adrien Vazelli, Anne-Sophie Dazard et Pierre Dindy. Et ce soir, merci à Claire Destacan qui a réalisé cette émission. Et comme chaque soir, surtout en début de semaine, nous allons assister à un suspense insoutenable avec Mishka. D'abord Mishka, comme je vous sais un peu comme ça, poète et rêveur, tenant pas tellement bien vos agendas. Savez-vous que vous êtes invité à l'heure bleue après-demain, vous n'oublierez pas?
Je suis parfaitement au courant, bon. Me diffamez pas.
Bon, alors ce soir, on commence une épopée, vous aussi, on est dans l'épopée.
Épopée, oui, c'est électronique, c'est une forme d'épopée, je suis tout à fait d'accord avec vous.
On n'en saura pas plus, il faut vous écouter. À tout à l'heure.